Chapitre 16. Réunion. Nous sommes sur le bord d'un précipice, pensa Talbot Bulstrode, comme il se préparait pour le dîner dans le confortable boudoir qui lui avait été réservé à Mellish. Nous sommes sur le bord d'un précipice et il n'y a qu'un combat corps à corps qui puisse nous sauver. Il ne faut avoir aucune réticence. Essayer de conserver des soupçons ou mettre en avant de sottes coïncidences nous serait fatal. Si John s'était défait du pistolet avec lequel le meurtre a été commis, inévitablement, il aurait attiré le plus terrible soupçon sur sa femme. Dieu soit loué, je suis arrivé ici aujourd'hui. Nous devons envisager les choses en face et notre premier devoir est de secourir Aurora. Aussi longtemps qu'elle gardera le silence sur sa participation dans l'affaire de cette soirée et de cette nuit, un anneau manquera à la chaîne et nous serons tous à la mer. John doit lui parler ce soir. Ou plutôt, il vaut mieux que ce soit moi qui lui parle. Monsieur Bulstrode descendit au salon où il trouva son ami seul et ayant l'air malheureux. « Ces dames dînent en haut, » dit Monsieur Mellish quand Talbot le rejoignit. « On vient de me le dire. Pourquoi me fuit-elle, Talbot? Pourquoi ma femme m'évite-t-elle ainsi? Nous nous sommes à peine parlé l'un à l'autre ces jours-ci. » « Voulez-vous que je vous dise pourquoi, mon pauvre John ?» répondit M. Bulstrode. « Votre femme vous évite parce que vous avez voulu vous séparer d'elle et parce qu'elle pense, la pauvre enfant, qu'elle a perdu votre affection. Elle s'imagine que la découverte de son premier mariage a changé vos sentiments et que vous ne l'aimez plus. »« Ne plus l'aimer ?» dit John. « Oh mon Dieu ! Elle devrait savoir que si je pouvais donner ma vie 50 fois... « Je le ferai pour lui éviter une peine. Je voudrais le faire. Aide-moi, ô ciel! Quand même elle serait la misérable, la plus coupable qui ait rampé sur la terre. » « Mais personne ne vous demande de faire de pareilles choses, » dit M. Bulstrode. « On ne vous demande que de rester tranquille et d'avoir de la patience, d'avoir confiance dans la Providence et de vous laisser guider par des gens qui sont moins impétueux que vous. » « Je ferai tout ce que vous voudrez, Talbot. Je ferai tout ce que vous voudrez. » Monsieur Mellish serra la main de son ami. Avait-il jamais songé, lorsqu'il avait vu dans Talbot un fiancé agréé à Felden et qu'il l'avait détesté avec la fureur sauvage d'un Indien, qu'il en arriverait à être si humblement reconnaissant envers lui, si piteusement subordonné à sa sagesse supérieure? Il prit la main du jeune politique et promit d'être aussi soumis qu'un enfant. En conséquence, d'après les ordres de Talbot, il mangea quelques morceaux de poisson et but quelques verres de xérès. Après avoir ainsi simulé une apparence de dîner, il sortit avec M. Bulstrode pour aller chercher Aurora. Elle était assise avec sa cousine dans sa chambre, ayant l'air pâle dans le crépuscule sombre d'une soirée d'août, pâle comme une ombre dans sa blanche robe de mousseline. Elle venait seulement de se lever, après un sommeil long et fiévreux, et avait voulu dîner pour complaire à son hôte. Lucie avait en vain essayé de consoler sa cousine. Cette enfant passionnée, impétueuse, gâtée par la fortune et l'affection, refusa toute consolation. Elle pleurait d'avoir perdu l'amour de son mari et disait qu'il n'y avait plus rien à faire pour elle sur cette terre. Mais au milieu de l'un de ses discours, elle se leva tremblante, les lèvres entr'ouvertes et frémissantes, les yeux dilatés, et s'étonna d'un bruit de pas familier qui, pendant les derniers jours, avait été rare dans le corridor conduisant à sa chambre. Elle essaya de parler, mais la voix lui manqua, et, un moment après, la porte fut ouverte précipitamment par une main vigoureuse, et son mari entra dans la chambre en étendant ses bras et en l'appelant. « Aurora, Aurora, ma seule chérie, mon amour, ma seule chérie !» Il la pressa sur son cœur avant qu'elle sût que Talbot Bulstrode était derrière lui. « Ma seule chérie, » dit John, « ma seule chérie, vous ne pouvez pas assez dire combien j'ai mal agi envers vous. Mais, ô mon amour, ce mal m'a causé un tourment insupportable. Ma pauvre et innocente enfant, comment ai-je pu ?» « Comment ai-je pu ? Mais j'étais fou, et ce n'est que quand Talbot !» Aurora releva la tête de la poitrine de son mari et le regarda avec étonnement, tout à fait incapable de deviner le sens de ces phrases entrecoupées. Talbot posa sa main sur les épaules de son ami. « Vous allez effrayer votre femme si vous agissez ainsi, John, » dit-il tranquillement. « Vous ne devez faire aucune attention à cette agitation, chère Madame Mellish. Cela n'a pas de raison, croyez-moi, je vous prie. Asseyez-vous près de Lucie et remettez-vous. Il est 8 heures et jusqu'à 9 heures, nous avons quelques sérieuses affaires à arranger. » « Une sérieuse affaire ?» répéta vaguement Aurora. Elle était folle de ce bonheur soudain. Elle ne désirait nullement demander une explication sur le mystère des jours passés. Tout était fini. Son fidèle époux l'aimait avec autant de dévouement et aussi tendrement que jamais. Que pouvait-elle désirer de plus ? Elle s'assit à côté de Lucie pour obéir à Talbot, mais elle tenait encore la main de son mari, elle le regardait encore en face, n'ayant aucune conscience que la création renfermât quelque chose qui fût au-dessus de ce vigoureux homme. Talbot Bulstrode alluma la lampe sur le secrétaire d'Aurora, une lampe couverte qui éclairait la chambre seulement d'un demi-jour, puis, mettant sa chaise auprès d'elle, il dit gravement « Ma chère Madame Mellish, je serai forcé de vous dire quelque chose qui, je le crains, pourra vous causer un choc terrible. Mais il n'est plus temps de se contenir, à peine est-il temps d'être délicat. Veuillez avoir foi dans l'amour et l'amitié de ceux qui vous entourent, et promettez-nous de supporter bravement cette nouvelle épreuve. Je crois et j'espère qu'elle sera très courte. » Aurora regarda son mari avec étonnement, mais non Talbot. « Une nouvelle épreuve ? » fit-elle. « Vous savez que le meurtrier de James Conyers n'est pas encore découvert ?» dit M. Bulstrode. « Oui, oui, mais pourquoi cela ?»« Ma chère Madame Mellish, ma chère Aurora, le monde a une horrible idée. Il y a des gens qui croient que vous êtes coupable de ce crime. Moi ?» Elle se leva subitement et tourna son visage vers la lumière de la lampe avec un regard où se lisait un tel ébahissement, un étonnement si grand et si effrayant que Talbot Bulstrode, qui jusqu'alors croyait à sa culpabilité, fut dorénavant et pour toujours fermement convaincu de son innocence. « Moi ? » répéta-t-elle. Ensuite, elle se tourna vers son mari, l'ébahissement de son regard se changeant en un sombre chagrin, mélangé d'un étonnement plein de reproches, et lui dit à voix basse « Vous pensiez cela de moi, John ? Vous pensiez cela de moi ?» John Mellish courba la tête devant elle. « Je le pensais, ma chère, murmura-t-il. Dieu me pardonne pour mon indigne folie. Je le pensais, Aurora. Mais j'avais pitié de vous, j'étais désolé pour vous, mon seul et cher amour. » Et quand je le pensais le plus, j'aurais voulu mourir pour vous épargner la honte et la douleur. Mon amour n'a jamais changé, Aurora. Mon amour n'a jamais changé. » Elle lui donna sa main et, de nouveau, regagna son siège. Elle s'assit un moment, silencieuse, comme si elle essayait de rassembler ses idées et de comprendre le sens de cette étrange scène. « Qui me soupçonne de ce crime ? » dit-elle alors. « Quelqu'un d'autre m'a-t-il soupçonné de ce crime ? Quelqu'un d'autre que mon mari ?»« Je puis à peine vous le dire, ma chère Madame Mellish, » répondit Talbot. « Quand un événement de cette nature arrive, il est très difficile de dire qui peut être ou ne pas être accusé. Différentes personnes ont fait différentes suppositions. L'une a écrit aux journaux pour déclarer que, dans son opinion, le crime a été commis par quelqu'un de la maison. » Un autre a écrit aussi positivement à un autre journal, assurant que le meurtrier doit être un étranger. Chacun met en avant une masse de preuves supposées en faveur de son propre argument, et chacun cherche plutôt à prouver son habileté qu'à découvrir la vérité. Aucune ombre de scandale ne doit rester sur cette maison, ni sur ceux qui l'habitent. Pour cela, il est nécessaire, impérieusement nécessaire, que le vrai meurtrier soit découvert. Un agent de police de Londres est déjà en campagne. Ces hommes sont habiles. Quelques circonstances insignifiantes, négligées par la plupart de ceux qui sont intéressés à la découverte de la vérité, peut souvent les mettre sur la vraie trace. Cet homme doit venir ce soir ici, à 9 heures, et nous sommes là pour lui donner toute l'assistance possible. Voulez-vous nous aider, Aurora ? Vous aider ? Comment ? en nous disant tout ce que vous savez relativement à la soirée du meurtre. Pourquoi étiez-vous dans le bois ce soir-là ?
J'y étais pour rencontrer le mort.
Dans quel but ? Aurora se tut pendant quelques instants, puis, levant son regard avec hardiesse et une demi-défiance, elle dit aussitôt
« Talbot Bulstrode, avant de me blâmer ou de me mépriser, rappelez-vous comment le nœud qui me lie à cet homme a été rompu. La loi m'aurait délivré de lui si j'avais eu assez de courage pour en appeler à elle, et ne dois-je pas souffrir toute ma vie à cause de la faute que j'ai commise en ne demandant pas à être délivré de cet homme dont l'évidente infidélité m'autorisait à divorcer ? Dieu seul sait ce que j'ai souffert avec lui. J'ai enduré son ton vulgaire, son insolence, son orgueil. J'ai été souvent sans un sou, tandis que lui dépensait l'argent de mon père dans des maisons de jeu et aux courses. J'ai été sans pain, tandis que lui buvait du champagne avec des fripons et des misérables. Rappelez-vous cela quand vous me blâmerez le plus. Je me rendis dans le bois pour le voir une dernière fois sur cette terre. Il m'avait promis qu'il émigrerait en Australie contre le paiement d'une certaine somme d'argent.
« Et vous vîtes cette nuit pour la lui payer ?» dit vivement Talbot.
« Oui, il fut insolent, comme il était toujours, car il me détestait, parce que j'avais découvert un moyen de l'empêcher de ne jamais rien réclamer sur ma fortune. Il se haïssait lui-même pour la folie qu'il avait faite en n'arrangeant pas mieux son jeu. Des mots de colère furent échangés entre nous, mais il me réitéra son intention de partir pour Liverpool de bonne heure le lendemain et...
Vous lui avez donné de l'argent ?
Oui.
Mais dites-moi, Aurora, dit Talbot, presque trop emporté pour trouver les mots, combien y avait-il que vous l'aviez quitté quand vous entendîtes le coup de pistolet ?
Pas plus de 10 minutes.
Mais Liche, s'écria M. Bulstrode, a-t-on trouvé de l'argent sur le cadavre ?
Non, oui, je crois un peu d'argent, répondit vaguement M. Mellish.
Un peu d'argent, dit Talbot avec mépris. Aurora, quelle est la somme que vous avez donnée à James Conyers la nuit de sa mort ?
2000 livres.
En un bon ?
Non, en billets.
Et l'on n'a pas entendu parler de cet argent depuis ?
Que voulez-vous dire ? Demanda John.
Dieu merci, s'écria M. Bulstrode, nous trouverons le meurtrier. Celui qui a tué James Conyers l'a tué pour lui voler l'argent qu'il avait sur lui au moment de mourir.
Mais personne ne pouvait savoir qu'il avait cet argent, dit Aurora.
Personne ? Le sentier à travers le bois est un passage public. Votre conversation avec Conyers a pu être entendue. Vous parliez d'argent, je suppose ?
Oui.
Dieu merci, Dieu merci. Demandez pardon à votre femme de la cruelle injure que vous lui avez faite, John, et puis venez avec moi en bas. Il est 9 heures passées et je crois que M. Grimstone nous attend.
Mais encore un mot, Aurora. Le pistolet avec lequel cet homme a été tué avait été pris dans la maison, dans le cabinet de John. Le savez-vous ?
Non, comment pourrais-je le savoir ? Demanda Mrs. Mellish naïvement.
L'évidence est contre la possibilité du meurtre commis par un étranger. N'y a-t-il pas un de vos domestiques que vous pouvez soupçonner d'un pareil crime, John ?
Non, répondit vivement M. Mellish, pas un.
La personne qui a commis le meurtre doit être celle qui a pris votre pistolet. Vous êtes prêt à déclarer, John, que ce pistolet était en votre possession le matin du meurtre ?
Certainement.
« Vous avez remis les armes de John en place ce matin-là, Aurora, » dit M. Bulstrode. « Vous rappelez-vous d'avoir vu ce pistolet ?»«
Non, » répondit Mrs. Mellish, « je ne l'aurais pas remarqué parmi les autres. »«
Vous n'avez trouvé aucun domestique dans la chambre ce matin-là ?»«
Non, » répondit Aurora immédiatement. « Mrs. Powell vint dans cette pièce pendant que j'y étais. Elle me suivait toujours et je crois qu'elle m'a entendu parler avec. »
Avec qui ?
Avec le serviteur et le messager de James Conyers, Stephen Hargraves, l'idiot comme on l'appelle.
Vous lui parliez ?
Alors ce Stephen était dans la chambre ce matin-là ?
Oui, il m'apportait un message de l'homme assassiné et il a attendu ma réponse.
Était-il seul dans la chambre ?
Oui, je l'y trouvais quand je revins, content d'y trouver John. Je n'aime pas cet homme, injustement peut-être, car c'est une pauvre créature, à moitié imbécile, qui ne sait ce que c'est que le bien et le mal, et j'étais en colère de le voir. Il a dû entrer par la fenêtre. » En ce moment, un domestique entra dans la chambre. Il venait dire que M. Grimstone attendait en bas depuis quelques minutes et qu'il désirait voir M. Bulstrode. Talbot et John descendirent ensemble. Ils trouvèrent M. Joseph Grimstone assis à une table dans la confortable chambre naguère occupée par Mistress Powell. La lampe était tirée jusque sur ses sourcils et il avait un petit livre de notes ouvert devant lui. Il était profondément occupé à écrire des notes au crayon. « Quand ces gens-là commencent-ils donc un crayon et comment se fait-il qu'ils semblent toujours arriver au bout ?» Lorsque les deux amis entrèrent. John Mellish s'appuya contre la cheminée et mit sa main devant sa figure. En réalité, il aurait autant aimé se trouver dans sa chambre. Il ne savait rien des raisons qu'avait Talbot pour avoir provoqué cette entrevue avec l'agent de police. Il n'avait aucune idée, aucun vague soupçon ne sortait lentement de l'obscurité pour lui prouver l'identité du meurtrier. Il savait qu'Aurora était innocente, qu'elle avait réfuté avec indignation ses indignes soupçons et qu'il avait vu la vérité, radieuse comme la lumière de l'inspiration, briller sur sa belle figure. M. Bulstrode sonna et fit venir une bouteille de sherry pour l'agent. Ensuite, d'une manière pleine de sens et très calme, il raconta ce qu'il avait pu découvrir au sujet du meurtre. Joseph Grimstone écoutait très tranquillement et suivait Talbot Bulstrode en laissant une trace de crayon sur le papier, comme le petit poussé semait des croûtes de pain dans le sentier du bois, pour se guider pour entrer à la maison. L'agent regardait en l'air de temps en temps, buvait un verre de sherry et faisait claquer ses lèvres avec la tranquille approbation d'un connaisseur. Quand Talbot eut fini ce qu'il avait à dire, M. Grimstone jeta son livre de notes dans une poche très étroite et, prenant son chapeau sous la chaise, il se prépara à partir. « Si les renseignements que vous venez de me donner concernant l'argent sont exacts, monsieur, dit-il, je pense trouver mon chemin à travers cette affaire, c'est-à-dire si nous pouvons avoir les numéros des billets. Je ne puis rien faire sans les numéros. » Le calme de Talbot s'évanouit. C'était un coup de mort. Était-il probable qu'Aurora, cette fille impétueuse et inhabile aux affaires, eût pris les numéros des billets que, dans sa colère, elle avait jetés comme une dernière proie à l'homme qu'elle haïssait ? « Je vais aller m'en informer auprès de Mistress Mellish, dit-il, mais je crains bien de ne pas avoir les renseignements que vous désirez. » Il sortit, mais 5 minutes après, il revint triomphant. Mistress Mellish a reçu ses billets de son père et M. Floyd a pris note des numéros avant de donner l'argent à sa fille. Si vous êtes assez bon pour écrire quelques mots à M. Floyd et lui demander cette liste par retour de la poste, je saurai comment agir, répliqua l'agent. Je n'ai pas été plus paresseux que vous cet après-midi, messieurs. Je suis revenu après vous avoir quitté, M. Bulstrode, et j'ai examiné de nouveau le banc. J'ai trouvé quelque chose qui m'a indemnisé de ma peine. Il tira de sa poche un petit objet qu'il tint entre son pouce et son index. Talbot et John regardèrent fixement cet objet, mais ne purent rien découvrir. Il semblait que c'était un simple rond de métal rouillé. « Ce n'est ni plus ni moins qu'un bouton de cuivre, dit l'agent avec un sourire de grande supériorité. Le nom du fabricant est Crosby, de Birmingham. Il y a des taches qui semblent être du sang, et, à moins que je ne me trompe, il se trouve être fait joliment bien pour entrer dans le canon de votre pistolet, monsieur Mellish. Maintenant, ce que nous avons à faire, c'est de trouver une personne portant ou ayant en sa possession un habit avec des boutons de Crosby de Birmingham et un bouton manquant. Et si nous trouvons le même individu changeant un des billets dont monsieur Floyd a pris les numéros, je ne crois pas que nous soyons bien loin de mettre la main sur l'homme qu'il nous faut. » Après ce discours, M. Grimstone partit pour Doncastre pour y ordonner l'immédiate impression et la mise en circulation de 100 affiches offrant une récompense de 200 livres sterling pour tel renseignement qui amènerait la prise du meurtrier de James Conyers. Cette récompense serait donnée par M. Mellish et indépendante de celle promise par le gouvernement.